La vie commence à 45 ans, une émission d'Isabelle Plançon.
Écoutez l'histoire de femmes et d'hommes qui ont décidé de prendre leur vie en main après 45 ans. Bonjour très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à la résilience. J'ai choisi ce sujet car beaucoup d'entre nous sommes touchés par des accidents de la vie. Il nous arrive des événements qui nous touchent dans notre chair et qui changent le cours de nos vies à jamais. Rien qu'en France, près de 12 millions de personnes sont victimes d'un accident domestique chaque année et 15 millions d'accidents de la route. Suite à ces événements tragiques, beaucoup se retrouvent handicapés ou malades chroniques et doivent continuer leur vie avec une santé et une énergie défaillantes. Dans un monde où tout va toujours plus vite, plus fort, il faut être plus jeune, plus beau, nombreux sont ceux qui se sentent rejetés ou invisibilisés par la société. Alors, si c'est votre cas, ou celui d'un ami, ou d'un membre de votre famille, l'histoire de Valérie, qui est là aujourd'hui, et qui a subi un accident terrible de la vie il y a 17 ans, eh bien, cette histoire va vous redonner confiance, va vous redonner des objectifs. Cette histoire va vous inspirer, vous donner aussi l'envie de vous dépasser peut-être, quelle que soit votre condition physique. Je l'espère en tous les cas, vous encourager. Alors bonjour Valérie, je suis très honorée de t'avoir aujourd'hui dans mon émission. Je t'invite à te présenter.
Bonjour Isabelle et je te remercie. Alors, je m'appelle Valérie, je suis maman de 3 garçons, 3 hommes maintenant, et mamie de 2 petites filles. Voilà, je vis dans le sud de la France.
D'accord.
Depuis 93 et avant ça, je vivais en Afrique du Sud.
Oui, alors tu as eu une vie très très remplie. On ne va pas tout raconter, mais tu pourrais écrire un livre de toutes les façons.
C'est vrai, oui. Peut-être à la retraite.
Alors, j'aimerais en fait malheureusement nous replonger il y a je crois 17 ans ou 19 ans.
Alors, il y a 19 ans, oui, 19 ans cette année.
D'accord, donc il y a 19 ans, tu as subi un événement dramatique. Tu peux nous le raconter ?
Alors, un truc tout bête, je préparais des frites et la poignée de ma friteuse a cédé. Et je me suis renversée l'huile sur mes jambes. Donc, j'ai été prise en charge par les pompiers, l'hôpital, etc. Je suis arrivée avec des brûlures très graves sur la jambe gauche, moins graves sur la droite. Et suite à ça, j'ai eu de nombreuses opérations.
Combien d'opérations d'ailleurs ?
Alors, le tout a duré 13 mois et j'ai eu 17 opérations.
C'est énorme. Lors d'une de ces opérations, tu as contracté un staphylocoque doré. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé sur ta jambe ?
Alors, j'avais une jambe qui ne guérissait pas en fait, et d'où toutes les opérations de nettoyage, entre guillemets.
Oui.
Et du coup, moi, j'avais très confiance aux médecins parce que on est bien obligé de faire confiance aux personnes qui nous aident.
Bien sûr.
Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte qu'en fait, ma jambe ne guérissait pas et j'avais beaucoup de chair qui devenait noire, donc je gangrenais. Et c'est là que c'est parti. Et
tu as dû avoir très très peur.
Alors oui, là j'ai commencé à avoir moins confiance et là je me suis sentie pas du tout
soutenue
par tout ce qui était médical. Là maintenant j'avais peur.
Et à ce moment-là, tu as pris une décision mais terrible pour beaucoup de personnes qui fait très très peur. C'est laquelle ?
Alors de l'amputation.
Oui.
Alors ça fait peur aux gens, oui. Moi, je pense qu'à ce stade de ma vie, au bout de 13 mois, je n'avais plus peur de rien. Il fallait survivre.
Oui, il fallait que tu te débarrasses aussi de...
Il fallait que je me débarrasse d'une jambe qui ne fonctionnait plus et qui ne ressemblait à plus rien. Voilà, parce que chaque opération, on m'enlevait de la peau, des muscles, des tendons, etc. Donc voilà, c'était plus possible. Jamais on allait pouvoir reconstruire tout ça.
Alors bon, donc c'est une décision où tu arrives à l'hôpital, tu as pris la décision de l'amputation et tu me dis que tu subis encore un autre stress énorme. C'est qu'en fait, on ne t'endort pas.
Alors,
enfin, complètement, quoi.
Voilà, le jour de l'amputation, j'arrive en salle d'opération et là, l'anesthésiste me dit, avec toutes les anesthésies générales que j'avais subies, il était impossible d'en faire une. Donc, ce jour-là.
On t'a fait une péridurale alors que toi, tu as très peur de la péridurale.
Très, très peur. Alors du coup, ben, j'ai pas eu le choix. On a fait la péridurale et puis, alors je me souviens de rien parce que j'avais beaucoup de médicaments. Donc je me souviens de rien. Tout ce que je me souviens, c'est en fait quand je me suis réveillée entre guillemets, j'étais donc amputée et je me sentais au top, vraiment bien débarrassée, une renaissance en fait qui a débuté de suite.
Ça veut dire que tu avais fait déjà le deuil de ta jambe pendant toute cette période de gangrène ?
Oui, parce que tous les jours, je voyais que alors, mon état de la jambe, à mes yeux, se dégradait de jour en jour.
Oui.
J'avais cette gangrène, j'avais cette mauvaise odeur de viande pourrie, on va
oui,
dire
c'est
ce
ça
qu'il en
faut,
est.
Il faut dire voilà. Les choses aussi.
Voilà.
Hein. Ouais.
Et aussi, je sentais que ma vie, elle partait. Et lors de ma dernière visite médicale, parce que ça a été tout un truc de trouver un chirurgien qui veuille bien prendre la suite de notre chirurgien pour m'amputer.
Ouais, ça, je sais ce que c'est, oui.
Voilà. Et là, ma vie, elle partait. Et tout doucement. Et le chirurgien qui m'a pris en charge, il m'a dit que j'étais en septicémie. Donc, il ne me restait pas beaucoup de temps à vivre. Il m'avait parlé de 2 semaines à ce moment-là.
Donc, tu as pris la bonne décision. Mais malgré tout, quand tu te réveilles, tu es comme ça. Tu es une femme. Tu es en plus une très belle femme. Tu avais quel âge à ce moment-là ?
Alors, j'avais 50 ans. Voilà.
50 ans. 50 Alors, ans. À 50 ans...
Non, pardon, non. 40 ans.
Ah oui, d'accord, 40, parce que je me disais, ouais.
Je me suis rajeunie.
Oui, tu avais 40 ans, donc une belle femme, belle blonde aux yeux bleus, sportive, et d'un seul coup, on t'enlève la jambe. C'est pas que si tu avais été plus grosse ou
non,
que ce soit,
non,
ça soit
c'est sûr.
Moins compliqué, mais en fait, tu avais certainement l'habitude d'être regardée, et là, eh bien, en tant que femme, c'est quand même compliqué de se retrouver dans cette situation physique, non ?
Alors, le plus compliqué, c'était que pendant tous ces mois auparavant, j'avais perdu 18 kilos.
D'accord.
Et je ressemblais à une personne qui était anorexique, et pour moi, ça, c'était la pire des choses. Et du coup, le fait de me regarder dans un miroir toute nue après l'amputation... Mm-hmm. Bon, il me manquait une jambe, oui, mais tout ce que je voyais dans ce miroir, c'était ma maigreur. Et ça, ça m'a rendue plus malade qu'autre chose. Et du coup, ben, ça s'est tout bien déroulé.
Bon,
voilà.
Bah, écoute, toi, t'es vraiment une warrior, hein, c'est le cas de le dire. Après, tu arrives à la maison et normalement, tu dois aller dans une maison de repos, enfin une maison de rééducation.
Alors,
un centre de rééducation.
Oui, la normale, c'est qu'on sort de la clinique pour de suite intégrer un centre de rééducation.
Je ne sais pas ce que tu as fait.
Je n'ai pas voulu le faire parce que j'avais perdu 13 mois avec mes enfants.
Ah, t'es une vraie bonne maman,
jeune,
toi.
Qui étaient jeunes. Ouais. Et je me suis sentie d'abord les enfants, après moi. Voilà.
Voilà, alors là, on a le sacrifice ultime. Tu es amputé et après, au lieu de t'occuper de toi, tu vas t'occuper de ta famille. Et ça dure pas un mois, deux mois, trois mois. Ça dure combien de temps, cette histoire ?
Ça dure 10 ans.
Voilà. Pendant 10 ans, tu t'es occupé de tes enfants, t'as pas été en centre de rééducation.
Non.
Ça, c'est exemplaire. Donc, si vous êtes dans cette situation où vous n'avez rien fait, on va dire, entre guillemets, que peut-être vous occupez de votre famille ou de... Bon, c'est pas grave. Vous allez voir qu'après, tout est possible. 10 ans plus tard, tu vas changer, en fin de compte, complètement ta vie. Et on va l'écouter, ça, après une page de publicité et surtout une page musicale que tu as choisie de circonstance. On va écouter Imagine de John Lennon.
No hell below us.
Alors, nous voilà de nouveau avec Valérie, mon invitée d'aujourd'hui, que j'ai plaisir à rencontrer. Valérie, écoute, ton histoire est incroyable. Donc, tu nous racontais que tu avais eu un accident domestique. Tu étais en train de faire des frites. La bassine de frites, enfin la friteuse, s'est renversée sur tes jambes, notamment sur une jambe. Et suite à tout un tas d'opérations, eh bien, finalement, tu as attrapé un staphylocoque doré et derrière, tu as été amputée. Donc, tu arrives à la maison. Je voudrais savoir comment tu fais, puisque en fait, tu n'as pas de prothèse à ce moment-là. Comment tu fais pour marcher ?
Alors, non, je n'ai pas de prothèse, puisque j'ai fait le choix de d'abord rentrer chez moi et pas de faire de rééducation tout de suite. Et du coup, je rentre chez moi avec une paire de cannes anglaises et je me déplace avec les cannes anglaises. Alors, au début, un petit peu compliqué parce qu'il y avait ces 18 kilos de moins, donc il a fallu que je me refasse une santé.
Tu t'es mis à la muscu là, à ce moment-là ?
Alors d'abord, je me suis mis au tennis fauteuil.
D'accord.
Et après ça, j'ai commencé la musculation et après, je faisais des randonnées le week-end.
D'accord, donc tu t'es mis quand même sans prothèse au sport.
Oui.
Mais pourquoi ?
Parce que j'ai toujours fait du sport dans ma vie, depuis toujours.
Tu étais une sportive ?
J'étais sportive avant. Et bon, après, il y a eu la période où j'ai eu les enfants. Donc là, je faisais beaucoup, beaucoup moins de sport parce que les enfants, c'est du sport.
Oui, oui.
et puis après, là, j'avais plus de temps vu que les enfants étaient quand même plus grands. Et j'ai pu me remettre. Et puis là, c'était important puisque je me retrouve quand même handicapée. Mmh. Et je me dis, là, il faut que je me refasse une santé et ça va être plus compliqué qu'une personne valide. Et du coup, je me suis mis au sport de suite. Et aujourd'hui, je fais toujours du tennis fauteuil. Je fais de la muscu une partie de l'année et je nage. Les randonnées, j'en fais plus.
D'accord. Bon, en tous les cas, tu fais déjà pas mal de sport quand même. J'aimerais savoir, à un moment donné, tu as décidé de faire des compétitions. Enfin, en tous les cas, une compétition. Et c'est là, tu m'as expliqué que c'est là que ça t'a motivé d'avoir une prothèse. C'est laquelle compétition ?
Alors, c'était une compétition qui se déroule aux Pays-Bas, en stand-up paddle.
D'accord.
Et c'est un sport que je ne connaissais pas. Enfin, j'avais vu, mais je n'avais jamais pratiqué. Et ce qui m'a intéressée, c'est que ça durait 5 jours et c'était 220 kilomètres. Donc, ça faisait à peu près un marathon par jour.
En fait, tu as commencé à te challenger.
Oui.
Parce qu'auparavant, tu faisais déjà du sport.
Oui.
Donc, tu étais en bonne condition physique 10 ans plus tard. Et là, Tu te dis, tiens, je vais me faire ce challenge. Bon, c'est pas tout le monde qui ferait ça, même avec deux jambes. 220 kilomètres de paddle, c'est quand même quelque chose. Moi, j'en fais du paddle, donc je sais que c'est intense. Hein. Et tu commences par monter sur le paddle avec une jambe.
Oui, parce que jusque-là, je n'ai pas de prothèse. Oui. Il faut bien que j'apprenne le paddle pour aller faire cette compétition. Mmh. Et du coup, j'ai pas du tout pensé à une prothèse. J'ai dit, je vais m'y mettre. Alors, pagayer du côté droit, il n'y avait pas de souci puisque j'avais ma jambe valide d'appui. Mais côté gauche, vu que je n'avais plus de jambes, je n'avais aucun appui. Et là, je tombais à l'eau. Alors, je me laissais porter sur l'eau, tout simplement.
Qui fait que ça a été là, pour toi, la motivation pour avoir une prothèse.
Et oui, obligée pour faire les 220 kilomètres.
Voilà. Mais est-ce que tu les as fait, ces 220 kilomètres, finalement ?
Alors, c'était en septembre 2015 et non, je n'ai pas réussi. En fait, il y a eu un jour où je n'ai pas pu sortir sur l'eau parce que j'avais le corps Trop
fatiguée.
Ah oui, oui, très fatiguée, mal de partout, voilà. Et du coup, j'ai fait 180 kilomètres.
Ce qui est énorme. Mais tu m'as dit qu'à ce moment-là, tu n'étais pas contente de toi.
Non, pas du tout.
Et tu t'es rechallengée pour la nuit suivante.
C'est ça. Donc, en septembre 2016, je suis partie. Peut-être pas mieux préparée, mais j'ai fait toute ma course.
Bravo, bravo.
Merci.
Toutes mes félicitations. À partir de là, tu vas enchaîner les compétitions, mais cette fois-ci, tu vas te challenger pour toi-même, mais tu vas faire des compétitions surtout pour des associations. Et la première que tu choisis, c'est l'association, si je comprends bien, si je me rappelle bien, ELA, qui était une association parrainée par Zidane.
Alors, c'est parrainé par Zidane depuis de nombreuses années.
Et d'ailleurs, tu m'as dit que c'est parce que tu voulais le rencontrer au départ, petite coquine.
Alors oui, je me suis dit, il doit être là à l'arrivée. Et donc, j'ai monté 25 étages et il n'était pas là. Donc, je suis redescendue et j'ai retenté le coup, mais il n'était toujours pas là.
Valérie, pas folle, la guêpe. Hein. En tous les cas, là, à partir de ce moment-là, tu vas monter des marches. Ça va être son truc.
Oui.
Puisque tu vas décider de monter la Tour Montparnasse qui a 60 étages, c'est ça?
C'est ça. 1000 marches.
1000 marches. Avec tes béquilles et ta prothèse.
Alors non, sans prothèse.
Sans prothèse.
Toutes mes courses d'escalier se déroulent sans prothèse, à part la dernière que je viens de faire, où j'ai fait moitié-moitié.
D'accord. Et donc, cette fois-ci, c'était pour quelle association?
C'est pour la Fondation Gustave Roussy, pour la recherche des cancers pédiatriques.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, c'est qu'au lieu d'être sur ton petit nombril, entre guillemets, à te morfondre sur ta situation, et tu aurais eu le droit de le faire, eh bien, pas du tout. Toi, tu es dans le don, tu es dans le... Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien que nos auditeurs retiennent pour eux, si c'est votre cas, si vous êtes dans ce cas de maladie ou d'handicap, ou le transmettre à des personnes qui sont dans ce cas-là. Parce que donner aux autres, même si on n'a pas beaucoup, eh bien, ça va toujours nous motiver pour notre quotidien. Et c'est ce que tu as fait, toi.
Oui. Oui, parce que ça motive plus s'il y a une bonne cause derrière.
Oui.
Et puis, c'est toujours pour des enfants aussi.
En plus, tu aimes les enfants.
Voilà. Donc, ça, c'est très important.
Alors, après la Tour Montparnasse,
oui.
C'est pas assez haut pour toi. Tu décides d'aller faire la Tour Eiffel.
Voilà. J'ai fait la verticale de la Tour Eiffel quelques mois après la Tour de Montparnasse.
C'est combien de marches?
1665.
Et en plus, c'est des marches, tu m'as expliqué, glissantes.
Glissantes, métalliques, vraiment désagréables à monter, voilà. Et puis la dernière partie entre le deuxième et le troisième étage, la partie qu'on ne peut jamais faire en tant que touriste, c'est qu'un escalier. Donc, il n'y a plus de palier là. C'est vraiment beaucoup de marches, voilà. Et la dernière partie en spirale. Donc, c'était vraiment compliqué et tout métallique.
Mais écoute, tu as fait ce challenge formidable. Est-ce que tu étais contente de toi à la fin?
Alors, contente de moi, non, je ne suis jamais contente de moi.
Ah.
Mais c'est vrai que la tour Eiffel, c'était le plus beau challenge que j'ai fait.
D'accord. Par la suite, tu ne t'es pas arrêtée là, puisque tu as refait la tour Montparnasse et par deux fois, ce qui équivalait à 10 000 marches, si
non,
j'ai bien...
Non, 2 000.
À 2 000 marches, oui. Pardon, 2 000 marches. Et ensuite, tu as fait les 10 000 marches, mais
oui.
Sur un pont.
Hein? C'est ça, oui.
C'est-à-dire que tu as marché pendant 8 heures et demie, c'est ça?
Pendant 8 heures et demie, j'ai fait des montées, descentes d'escalier.
Et là encore, pour une association?
Toujours pour la Fondation Gustave Roussy.
Très bien. Tout cela, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement? Tous ces challenges, tous ces objectifs?
Alors, à moi, ben, c'est toujours ce défi d'aller au-delà, toujours un petit peu plus. Bon, là, plus de 10 000 marches, ça ne va jamais arriver. Hein, voilà, qu'on soit bien d'accord, là, c'est bon. mais ça, voilà, ça apporte un défi, ça apporte beaucoup de fatigue, ça, c'est sûr.
Oui.
Mais surtout, je le fais pour les enfants, voilà, pour que ça rapporte quelque chose, voilà.
Pour, oui, t'es motivée
pour recevoir des dons, voilà.
Tu as compris que tu pouvais faire quelque chose qui sert à récupérer de l'argent,
oui.
Pour sauver des enfants.
Oui.
Et du coup, ça t'a permis, enfin, ça t'a motivé énormément.
Oui.
Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, n'importe qui, à l'heure actuelle,
Si, par exemple, dans sa vie, il peut faire un challenge quel qu'il soit, ça peut être quelque chose de très petit même, mais si ça lui permet de rapporter de l'argent pour une association, ça doit être extrêmement... Ça doit rendre vraiment heureux, je pense.
Oui, bien sûr. Après, même si c'est juste une personne qui essaye de se surpasser que pour elle-même, c'est bien aussi. Parce que ben, quand on a un handicap, souvent, on pense que notre vie, elle est terminée.
Oui.
Et c'est vrai que de rester sur un canapé devant la télé, c'est pas une solution pour personne.
Bien sûr.
Et il faut oser. Parce que il faut oser, il faut sortir, il faut se faire plaisir. Et puis, pourquoi pas, on se sent bien de faire du sport. Et le sport, ça sauve toujours une personne.
Ce sont des bonnes hormones, en l'occurrence des endorphines, qui vont booster notre organisme. Et tu sais, ça me fait penser aussi, récemment, il y a eu le marathon à New York. Et il y a une jeune fille qui était trisomique et qui est allée jusqu'au bout de ce marathon. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, elle a réussi à faire ça. Et tu vois, moi j'ai un fils qui est handicapé mental et il a fait une course qui a duré 5 km, c'est pas beaucoup, mais il est heureux jusque là encore maintenant, il m'en parle. Et en fait, à chaque fois que je suis avec lui, je lui organise des petites compétitions, on se challenge mutuellement pour monter des poids par exemple, etc. Et à chaque fois, ça lui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. Donc ton exemple peut motiver énormément de personnes et énormément de nos auditeurs.
Oui, et puis il y a pas de petit challenge de toute façon, il y a pas de petit défi, c'est ce que nous on peut faire. Voilà, après moi j'ai voulu aller au-delà parce que j'avais cet esprit de compétition avec moi-même, pas avec une autre personne.
Oui.
Mais après même si j'étais restée sur le fait de marcher 3 km par jour, c'est pas grave, c'est toujours 3 km.
Oui.
Donc il y a peut-être des personnes qui veulent pas aller au-delà de ça, mais au moins ils font leurs 3 km par jour et c'est tout à fait bien.
Oui. Bah écoute, en tous les cas, merci beaucoup pour ton exemple et pour ton histoire qui est tellement inspirante et qui va, je suis sûre, donner du baume au cœur à tous nos auditeurs. Je te remercie. La semaine prochaine, on aura une nouvelle histoire à raconter. Je vous encourage à être à notre écoute, hein, à venir à écouter tous les mardis à 16h30. La vie commence à 45 ans. Et merci encore pour votre fidélité. Au revoir.
Merci.